Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, des citoyens pour débattre de l'avenir de la planète. On connaîtra ce soir le profil exact des 150 citoyens tirés au sort pour participer à la Convention citoyenne sur le climat. Début des travaux dans deux jours. Sur quel thème, quelles questions? On vous en dit plus dans un instant. À suivre également le bilan des fraudes à la Sécu. Ce sont les professionnels de santé les plus fautifs. L'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, un an après, quelles conséquences pour le pouvoir saoudien, analyse dans ce journal. Dans ce journal également, le statut des directeurs d'école, à nouveau sur la table du ministère de l'Éducation nationale, 10 jours après le suicide de la directrice de Pantin. Et puis, les rugbymen français qui retrouvent les pelouses japonaises, deuxième match de Coupe du Monde ce matin face aux États-Unis.
Et dans 20 minutes, l'invité de Léa Salamé est donc ce matin le fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, qui publie le deuxième tome de ses mémoires.
France Inter.
Ils vont plancher, Sébastien, sur le climat pendant 4 mois.
150 Français tirés au sort parmi 250 000 volontaires. On en sait un peu plus ce matin sur eux et sur leur feuille de route. Principale question à laquelle ils devront tenter de répondre, comment réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport aux années 90, le tout dans un esprit de justice sociale, un programme très ambitieux pour ces euro-gagnants dont le profil doit être dévoilé ce soir, Jeanne Dossé.
150 citoyens de tous âges et de tous milieux, une légère majorité de femmes, un quart de non-diplômés. C'est un panel représentatif de la France qui travaillera sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, selon Julien Blanchet, rapporteur général de la Convention citoyenne pour le climat.
Ces 150 citoyens, ils sont dans les territoires ruraux, ils sont dans les métropoles. C'est important d'avoir cette représentation qui est finalement la France dans sa diversité, de manière à ce que chaque citoyen puisse s'identifier à ces 150 qui participeront à la Convention citoyenne.
Pour être sûr de garder 150 personnes jusqu'au bout, 40 suppléants ont été sélectionnés afin de remplacer les éventuels démissionnaires. Le panel travaillera sur 5 thématiques parmi lesquelles consommer, se déplacer ou encore se loger. Thierry Pech est coprésident du comité de gouvernance.
On va proposer aux citoyens de se confronter à des controverses. Par exemple, on parle de rénovation des bâtiments. Est-ce qu'il faut contraindre les bailleurs? Est-ce qu'il faut un grand service public de la rénovation? Comment on fait? On n'attend pas des citoyens qu'ils soient des experts, on attend d'eux qu'ils prononcent un jugement dans ces controverses et qu'ils nous donnent leur arbitrage.
Ces 150 citoyens pourront dès ce week-end discuter avec des experts pour nourrir leurs réflexions. Les propositions seront formulées en janvier et soumises sans filtre, assure le comité de gouvernance, au vote du Parlement ou à un référendum.
Jeanne Dossé, ces 150 citoyens commenceront donc à travailler ce week-end, puis pendant 5 autres week-ends jusqu'au 26 janvier prochain.
Et comme promis, Sébastien, les autorités ont rendu public hier soir la liste des produits présents dans l'usine Lubrizol de Rouen.
On peut voir cette liste sur le site de la préfecture de Seine-Maritime. Au total, 5253 tonnes de produits chimiques détruits pendant l'incendie, principalement des additifs dits multi-usages, mais aussi des dispersants, des détergents et autres solvants. Des produits qui ne sont pas tous dangereux, a expliqué le préfet Pierre-André Durand. Le préfet qui assure par ailleurs qu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée dans l'air ou au sol et que 160 fûts endommagés sont en passe d'être déplacés et détruits. Une communication qui peine toujours à rassurer la population. Hier, 2000 personnes ont manifesté dans les rues de Rouen. Quand les infirmiers surfacturent leurs prestations ou les kinés inventent des soins fictifs, le bilan annuel des fraudes à la sécurité sociale a été publié hier, où l'on apprend que les principaux fraudeurs ne sont pas ceux que l'on croit. Sur les 260 millions d'euros détectés, près de la moitié de ce montant est un imputable aux professionnels de santé, Fabien Cazot.
Ce sont les professionnels de santé qui sont à l'origine des fraudes les plus coûteuses pour l'assurance maladie. S'ils ne représentent que 21% des cas constatés en volume, les médecins, infirmiers ou ambulanciers pèsent pour 47% dans le montant total de la fraude, avec notamment des remboursements de soins de ville fictifs pour 130 millions d'euros en 2018. Autre exemple, évoqué dans ce rapport annuel, un médecin spécialiste qui facturait à des dates différentes des soins réalisés le même jour pour en obtenir un remboursement anormalement majoré, ou encore cet infirmier qui faisait payer des soins réalisés par sa conjointe qui, c'est un comble, n'est pas infirmière. Du côté des usagers, la vigilance s'exerce surtout au niveau des déclarations de revenus qui donnent droit à la couverture maladie universelle complémentaire. En tout, qu'il s'agisse de particuliers ou de professionnels, 23 000 enquêtes ont été menées l'année dernière. Elles ont donné lieu dans un tiers des cas à des pénalités financières financière ou à de simples avertissements.
Fabien Cazot, c'était attendu. Pernod et Ricard ne feront plus qu'un en juillet prochain. Une fusion qui va entraîner la suppression de 190 postes en France sur un effectif global de 1300 personnes. C'est du jamais vu depuis près de 20 ans. Une marche bleue dans les rues de Paris, marche de la colère, à l'appel de tous les syndicats de policiers qui espèrent rassembler 15 à 20 000 képis dans la capitale. Début de la manifestation à 12h30, place de la Bastille. Il y a un an, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi était tué dans des conditions obscures. Tué dans l'enceinte même du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Il y a deux jours, la BBC a diffusé un nouveau témoignage glaçant, celui d'une avocate britannique ayant participé à l'enquête de l'ONU et qui dit avoir écouté des enregistrements terrifiants fournis par les autorités turques où l'on entend notamment les présumés tueurs qualifier le journaliste d'animal destiné au sacrifice. Depuis le début de l'affaire, l'image d'un homme a été particulièrement écornée, celle du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, accusé d'être le commanditaire de ce meurtre. MBS, plus que jamais au pouvoir, mais fragilisé, Franck Madvon.
Dans une interview ce week-end à CBS, Mohamed Ben Salman nie une fois de plus toute implication dans le meurtre de Jamal Khashoggi. Même s'il dit en assumer la responsabilité en tant que dirigeant. Un an après, l'affaire ne le lâche pas. Mais MBS a seulement vacillé. À Riyad, il conserve tous les pouvoirs. Stéphane Lacroix est spécialiste de l'Arabie Saoudite à Sciences Po.
Depuis l'arrivée au pouvoir d'MBS, on a un autoritarisme très dur qui s'est mis en place en Arabie. Tous les critiques du pouvoir sont en prison en Arabie. Il n'y a plus d'espace pour exprimer une dissidence. Donc évidemment, aujourd'hui, personne ne critique MBS parce que personne n'a la possibilité de le faire.
L'image de MBS a toutefois été ternie par l'affaire Khashoggi.
Cette année, elle a contribué à considérablement écorner son image à l'international. Alors même que c'était quelque chose qui était très important pour lui. Il faut se souvenir qu'à partir de sa montée en puissance en 2015-2016, il va mettre en place une opération de relations publiques sans précédent, en essayant de montrer que l'Arabie change, que l'Arabie se modernise. Tout ça, depuis 2018, a été un peu remis en cause. Plus personne n'est dupe, et je crois que c'est vraiment ça qui a changé.
Par ailleurs, MBS a beaucoup misé sur Donald Trump. Or, Washington ne semble pas prêt à tout pour soutenir son allié saoudien face à l'Iran. Et l'affaire Khashoggi a suscité de vives critiques dans le camp démocrate, MBS pourrait en payer le prix en cas d'alternance aux États-Unis.
Franck Madvon. En bref, encore à l'étranger, un nouveau coup de colère de Donald Trump contre la procédure de destitution en cours contre lui après son tweet hier sur les risques de guerre civile. Le président américain compare cette fois la démarche des démocrates à, je cite, un coup d'État visant à prendre le pouvoir du peuple. En Tunisie, le deuxième tour de la présidentielle de plus en plus menacé, la justice a rejeté hier une nouvelle demande de libération du publicitaire Nabil Karaoui, candidat au second tour prévu le 13 octobre prochain.
Et à 7h37, on revient en France avec ce suicide qui secoue le monde enseignant.
Le suicide, il y a une dizaine de jours, de cette directrice de maternelle de Pantin. Ses obsèques auront lieu demain. Les syndicats appellent les professeurs à cesser le travail ce jeudi dans tout le département de Seine-Saint-Denis. Ce drame a fait ressurgir un véritable serpent de mer au sein du ministère de l'Éducation nationale. Le statut des directeurs d'école, ils sont 45 000 en France, qui cumulent enseignement, tâches administratives et vie quotidienne de l'école, une mission quasi impossible. Alors faut-il faire évoluer leur métier ? Le débat est à nouveau sur la table, Sonia Princey.
Il y a un peu moins d'un an, Jean-Michel Blanquer avait promis une loi pour changer le statut des directeurs d'école. Il réagissait à une enquête alarmante sur le moral de ses personnels et avait sur son bureau un énième rapport sur la question. Rapport de Cécile Rilhac, députée LREM, qui envisage aujourd'hui de déposer une proposition de loi pour créer une nouvelle fonction.
Parler non plus de directeur mais de chef d'établissement du premier degré, ça impliquerait qu'ils soient complètement déchargés de leur mission d'enseignement.
Déchargés à partir d'un certain seuil de classes dans l'école.
Dans le rapport, on préconisait 10 classes. Aujourd'hui, les décharges sont à 13 en maternelle, 14 en élémentaire. Les discussions doivent porter, je pense, essentiellement sur ce sujet-là.
Cela représenterait 5000 écoles seulement sur 45 000. Pour les autres, il faudrait aussi des mesures concrètes, comme le dit Stéphane Crochet, secrétaire général du SEUNSA. Lui-même ancien directeur.
La première urgence, le premier cri d'urgence de nos collègues, c'est du temps et une aide, un secrétariat aux côtés du directeur et de la directrice d'école qui doit aujourd'hui passer sa journée à aller ouvrir et fermer la porte à chaque fois que quelqu'un sonne, parce qu'on est en vigipirate, répondre au téléphone, relever les absences. Tant qu'ils font ça, ils n'ont même pas encore commencé à traiter les premiers aspects pédagogiques de la direction d'école.
Et pour toutes ces missions, les directeurs reçoivent une indemnité de 200 à 250 euros euros par mois en moyenne.
Sonia Prince est spécialiste éducation à France Inter. C'est une gare parisienne dont le chantier devient de plus en plus politique. La gare du Nord, qui doit être rénovée d'ici les JO de 2024. Mais la ville de Paris a annoncé hier qu'elle s'opposait au projet de rénovation trop commerciale, selon l'OL, de la SNCF. Une décision que déplore le groupe ferroviaire.
Et on termine avec du sport et le retour des rugbymen français sur les pelouses japonaises.
Deuxième match de poule ce matin des Bleus pour cette Coupe du Monde. Ce sera dans 2 heures exactement face aux États-Unis, un adversaire a priori facile. Le rugby est une discipline encore très peu pratiquée en Amérique, mais ça pourrait changer, Jérôme Val.
La popularité du rugby aux États-Unis est plus proche de celle du bowling que du basket ou du football américain, mais la création d'un championnat professionnel il y a 2 ans a changé la donne. La Major League Rugby regroupe 9 équipes, 8 américaines, 1 canadienne, et ambitionne d'attirer une trentaine de franchises d'ici quelques années. Ce championnat a les moyens d'attirer des joueurs venus d'Europe comme Mathieu Bastaro, recalé du 15 de France mais qui va rejoindre New York. Cette professionnalisation à grande vitesse bénéficie à l'équipe nationale, se félicite le troisième ligne, Cam Dolan.
Pour la première fois de notre histoire, nous participons à une Coupe du Monde avec un groupe entièrement professionnel. Avant, beaucoup de joueurs américains étaient amateurs. Ils travaillaient et s'entraînaient quand ils le pouvaient. Aujourd'hui, nous sommes plus performants.
Et cette politique commence à porter ses fruits. Le rugby est le sport qui connaît aux États-Unis la plus forte progression du nombre de ses licenciés. Mais le pays voit encore plus grand. Comme le Japon aujourd'hui, il veut devenir le poids lourd du rugby de demain. Les États-Unis devraient être candidats pour l'organisation de la Coupe du Monde en 2031. Fukuoka, Jérôme Val, France Inter.
Voilà, début du match France-États-Unis. C'est la Coupe du Monde de rugby. C'est à Fukuoka et c'est à 9h45.
Merci Sébastien Legénie.